France Info.
France Info.
Absolument, avec une concentration unique au monde de chercheurs de niveau international, à commencer par ceux du MIT et de Harvard, d'hôpitaux de réputation mondiale, de grandes entreprises du secteur, vous en avez des dizaines dans un rayon d'un kilomètre et demi, parmi lesquelles Merck, Novartis, Pfizer, Bayer, sans parler des 300 entreprises moins connues qui sont également installées dans la région. On invente ici la médecine et les médicaments de demain, c'est un mélange de biologie, de nanotechnologie, de sciences informatiques et bien sûr de génétique, c'est la grande affaire de la recherche médicale en ce moment. Quelques exemples, le projet Organs and Chips, organes sur puce informatique bien sûr, il permet d'analyser les effets d'une molécule sur les différents organes du corps humain en reproduisant leurs actions et leurs interactions sur des puces informatiques miniatures. Autre exemple, ce petit comprimé conçu sur le modèle de l'éponge et qui pourrait un jour délivrer un médicament capable de cibler directement dans notre corps des cellules cancéreuses. Ce sont des exemples que je prends dans les recherches fondamentales menées actuellement au Wyss Institute.
Toutes ces recherches reposent sur le croissement de différentes discipline, cette façon de faire tomber les barrières est-elle évidente ?
Alors pas du tout, et ça a été une de mes surprises ici comme ailleurs. Le chimiste, le biologiste, l'informaticien n'ont a priori aucune appétence naturelle pour le travail transdisciplinaire. C'est tout à fait comme en France, l'essentiel de la recherche est organisé par discipline qui fonctionne de manière étanche et tout le jeu consiste donc à essayer d'organiser la rencontre, d'organiser les croisements. Et comme les universités peinent parfois à le faire, plusieurs centres de recherche se sont créés dans cet objectif. En marge, en périphérie, souvent à part d'initiatives privées de nature philanthropique. C'est le cas du Wyss Institute, dont je citais quelques travaux à l'instant. Il est né il y a 5 ans, il a reçu 250 millions de dollars de dons, ce qui signifie que les chercheurs peuvent se concentrer entièrement sur leurs travaux et explorer des pistes extrêmement risquées, extrêmement radicales parfois, sans rendre de compte à quiconque. Autre exemple, le Broad Institute, qui fédère des chercheurs de Harvard et du MIT, ainsi que 5 hôpitaux qui comptent parmi les meilleurs des États-Unis. Et cette fois, c'est un couple composé de deux personnes, Ellie et Edith Broad, dont un des enfants était atteint d'une maladie génétique rare. C'est un couple donc qui a donné l'impulsion financière, en l'occurrence une donation de 100 millions de dollars.
Alors ces chiffres apparaissent très importants, ils sont aussi un peu abstraits.
Voilà, c'est vrai. Alors pour avoir un ordre de grandeur des moyens requis dans ce domaine, il faut savoir que la création d'une molécule, ça peut prendre une dizaine d'années entre le début de la recherche et la mise sur le marché, et que le coût moyen est estimé à 1 milliard de dollars pour une.
Alors ces initiatives sont uniquement financées par des fonds privés ?
Non, le Massachusetts aux États-Unis est un État un peu à part. Il a décidé de participer à l'effort en investissant 1 milliard d'euros sur 10 ans dans la recherche en biotechnologie. C'est assez rare ici. Il faut savoir qu'en France, c'est généralement le secteur public qui se méfie des financements mixtes public-privé. Là, aux États-Unis, c'est souvent l'inverse. C'est le secteur privé qui est parfois réticent à travailler avec le public.
Alors pourquoi ces instituts réussissent-ils à faire travailler ensemble les chercheurs alors que leurs universités d'origine ont du mal à le faire ?
Eh bien parce qu'ils sont organisés, structurés autour de projets ou autour de programmes et pas en fonction des disciplines de recherche. Il faut quand même dire que tout ne se passe pas en marge ou en périphérie. C'est par exemple la mission du Harvard Catalyst, dont une des fonctions est d'être une sorte de site de rencontre de chercheurs de toutes disciplines, un mythique de la recherche si vous voulez, afin que les personnes qui travaillent sur des problématiques communes dans les 11 départements et dans les 17 hôpitaux qui sont affiliés à Harvard se rencontrent.
Il y a une centaine d'établissements universitaires à Boston. Vous parlez toujours de Harvard et du MIT. Les autres restent en marge de cette compétition d'innovation ?
Non, ils se battent, mais ils avouent que la concurrence est effectivement extrêmement rude avec ces deux mastodontes. Boston University est par exemple la 4e université américaine en nombre d'étudiants. Elle en compte 40 000, c'est 4 fois plus que le MIT. Elle génère pourtant 2 fois moins de revenus en transfert de technologie vers l'industrie. Ceci dit, c'est un chiffre assez remarquable parce que elle y consacre en fait 18 fois moins de moyens. Donc quelque part, elle est plus efficace. Comment y parvient-elle ? Eh bien, en faisant tout à fait l'inverse, là où le MIT finance des dizaines, des centaines de projets en espérant que quelques-uns décrocheront le jackpot, Boston University se concentre sur quelques projets champions. C'est un peu comme dans la Silicon Valley, ce qui est assez remarquable aux États-Unis. C'est au fond que personne ne cherche à imposer ou à reproduire un modèle unique. Chacun essaye de faire avec ses forces.
Et à l'arrivée, donc, ça marche.
Oui, 9 entreprises de biotechnologie du Massachusetts ont fait leur entrée en bourse l'année dernière. Une demi-douzaine de plus déjà au cours des premiers mois de cette année. Tout cela conforte la renaissance de cet écosystème innovant de la Route 128, fondé vraiment sur ce moteur que sont les biotechnologies. Une Route 128 qui, comme écosystème innovant, avait été un peu estompé ces dernières années par celui de la Silicon Valley.